Libre la nation !
Libre la nation !
Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir ! Il faut reste groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ?
Groupir !
Alors, bon.
Et toc, remonte ton slibard, Lothar.
Mais si !
L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de la percée de l'histoire. Il est 20h08 au moment où je parle et nous commençons cette petite émission. Je ne suis pas seul ce soir puisque je suis avec le grand, le magnifique Salouane. Bonsoir Salouane.
Bonsoir, comment tu vas ?
Ça va et toi ?
Ça va très bien, on vient de manger et tout va bien.
Et voilà, et c'est la vie est belle.
Exactement.
On peut dire ça. Ce soir, dans le programme de cette émission... D'abord, le journal historique. Ensuite, je traiterai de la question royale. Qu'est-ce ?
Qu'est-ce ?
Et ensuite, Salouane, tu nous parleras de quoi ?
D'un roman chinois du XVIe siècle qui a inspiré une œuvre majeure de notre époque avec un petit garçon avec une queue de singe qui se balade sur un nuage magique. Voilà,
tu l'as bien fait. Donc nous y reviendrons après, bien évidemment. Et sans plus tarder, passons tout de suite au journal historique. Alors Salouane, est-ce que tu peux nous raconter les quelques événements qui se sont passés lors de ce 12 mars ?
Bien sûr. Alors on va commencer tout de suite avec le 12 mars 1818. Gouvion Saint-Cyr réforme l'armée française. Donc par la loi du 12 mars 1818... Le ministre de la guerre, Laurent de Gouvion-Saint-Cyr, réorganise l'armée française, mise à mal par l'effondrement de l'Empire napoléonien. À la Restauration, par la charte de 1814, le roi Louis XVIII avait aboli la conscription, autrement dit le service militaire obligatoire. Les recrutements ne se faisaient plus que sur la base du volontariat, décidément ce soir. Ensuite, nous avons le 12 mars 1921. Lénine lance la nouvelle politique économique, NEP. Lénine surprend les communistes de son parti en annonçant une nouvelle politique économique. Nous avons aussi le 12 mars 1930. Gandhi entame la marche du sel. Le Mahatma Gandhi lance une première campagne de désobéissance civile contre le pouvoir colonial anglais aux Indes. Au terme d'une marche de 300 km, il arrive avec ses partisans au bord de la mer et recueille un peu de sel dans ses mains, violant ainsi symboliquement le monopole d'État sur la distribution du ciel. Nous avons le 12 mars 1938. Hitler occupe l'Autriche et réalise l'Anschluss, le rattachement. Nous avons aussi le 12 mars 2008, et ce sera le dernier événement, mort du dernier poilu français. Le 12 mars 2008, s'est éteint Lazare Ponticelli, à l'âge de 110 ans, le dernier poilu français de la Grande Guerre. Né en 1897 dans une famille très pauvre d'Italie, il est arrivé à Paris à la gare de Lyon, seul et sans ressources, à l'âge de 9 ans. Il a vécu de petits boulots et dès que la guerre a éclaté, il s'est porté volontaire par reconnaissance pour la France qui l'avait accueilli. Il n'a pas hésité pour cela à tricher sur son âge. Il avait à l'époque 17 ans.
Donc ça veut dire que ça va faire presque 20 ans que ce monsieur est mort.
Oui,
c'est ça. En 2028.
Dans 4 ans.
Dans 4 ans, tout à fait. Alors, au niveau des naissances, c'est pas compliqué, il n'y en a qu'une. Et c'est celle d'André Le Nôtre, né le 12 mars 1613 à Paris et mort le 15 septembre 1700 à Paris. Fils et petit-fils d'un jardinier des Tuileries, André Le Nôtre prend la succession de la charge paternelle. Comme beaucoup d'hommes, de talent du grand siècle, c'est au service du richissime surintendant Claude Fouquet que Le Nôtre va révéler son art. Sa grande œuvre est le jardin de Vaux-le-Vicomte entre Melun et Fontainebleau. Après la disgrâce du surintendant, Le Nôtre entre au service de Louis XIV et transpose ses inventions à Versailles, Marly et Chantilly, entre autres. Au niveau des décès, on en a un peu plus, mais donc nous avons Grégoire Ier le Grand, qui est né vers 540 en Italie et mort le 12 mars 604. Donc c'était un pape. Donc nous avons Sun Yat-sen qui est né le 12 novembre 1866 et mort le 12 mars 1925 à Pékin. Et enfin, donc ce monsieur a notamment participé à la révolution de 1911 et le plus grand décès, enfin bon, après c'est chacun voit midi à sa porte, oui, mais je pense que c'est quand même une personnalité assez connue, n'est-ce pas? D'ailleurs, elle porte son nom, sert de nom pour un collège au Mans, et c'est Joséphine Baker, voilà, qui est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, et est morte le 12 mars 1975 à Paris. Joséphine Baker est née dans une famille pauvre, descendant d'esclaves africains à Saint-Louis, dans le Missouri, au sud des États-Unis. Elle connaît la misère et la ségrégation raciale, mais à 13 ans, elle monte sur scène et commence à gagner un cachet d'artiste. À 19 ans, elle débarque à Paris, et le 2 octobre 1925, entame un nouveau spectacle au Théâtre des Champs-Élysées, la Revue Nègre, avec 12 musiciens et 8 danseuses, dont elle. Elle acquiert la célébrité avec son refrain « J'ai deux amours, mon pays et Paris ». Alors moi, au départ, je pensais qu'elle disait « mon pays est Paris ».
Ah oui,
mais c'est... Le verbe. Mais ce n'est pas le verbe qu'elle utilise, c'est la mon conjonction de coordination.
Paris.
Et par eux, toujours, mon cœur est ravi, dit-elle, en écho à Thomas Jefferson, premier ambassadeur des États-Unis à Paris. Coqueluche des Parisiens dans les années folles, Joséphine Baker révèle un monde nouveau qui associe l'exotisme, l'érotisme et ce qu'on appelle la négritude à l'époque. Donc c'est l'époque où Picasso d'ailleurs découvre ce qu'ils appellent l'art nègre. Des bien beaux dons, dites-donc. C'est super, hein, en tout cas. Elle se marie une première fois en 1937 et acquiert la nationalité française. Fidèle à son pays d'adoption, elle entre dans la résistance pendant l'occupation. Voilà, c'est tout pour les naissances et les décès aujourd'hui. Et la fête du jour, ce sont les Justines. Bonne fête, Justine. Donc, Justine était une vierge, visiblement, qui a été martyrisée à Padoue en 303, au temps de l'empereur Dioclétien. Elle est connue par une peinture de Véronèse, le martyr de Sainte Justine. La sainte du jour n'a rien à voir avec l'héroïne du roman éponyme que le marquis de Sade écrivit pendant un séjour à la Bastille, Justine ou les malheurs de la vertu. Alors oui, le marquis de Sade était un peu un homme dépravé, disons, pour rester gentil. Donc je pense que Justine ou les malheurs de la vertu, ça ne doit pas être
rien
très catholique dans cette affaire. Voilà, bon, c'est là-dessus qu'on s'arrête, pour une petite pause musicale, bien sûr. L'émission ne s'arrête pas tout de suite, hein, enfin. Et la première pause musicale, ça sera Red Bones de Childish Gambino. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Radio Alpa.
Daylight,
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous êtes toujours en train d'écouter La percée de l'histoire. Excusez-moi pour cette petite interruption, j'avais perdu mon générique donc, et le jingle palette. Il était parti dans la spirale de l'oubli, mais c'est bon, je l'ai retrouvé. Et donc, tout va très bien. Maintenant, c'est l'heure de l'histoire, bien sûr. Nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Pour vous parler de la question royale. Hein. Sagouane nous a...
Qu'est-ce que c'est la question
voilà,
royale ?
Voilà, nous a, comment dire... pas spoilé, mais teasé plutôt.
Exactement.
Dans le post qui a été fait aujourd'hui. Et la question royale, eh bien en fait, ça ne concerne pas la France, ça va concerner la Belgique.
Notre
nos amis
voisin.
Belges.
Ouais, exactement.
Et donc la royauté belge, évidemment. Alors, donc, j'ai découvert un événement tout à fait intéressant. Il faut le dire, c'est intéressant. C'est très intéressant, très instructif et intuitif sur cette fameuse question royale. Alors, contexte. Nous sommes après la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et 1951. Et la Belgique va littéralement se déchirer. Là, c'est la catastrophe. Autour de la personne du roi, Léopold III. Bonjour. Parce que là, ce monsieur, on va en entendre parler tout au long de cette chronique, évidemment. Bien évidemment. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est cette question royale? Eh bien, nous allons le savoir immédiatement. J'ai fait une intro à la David Castello-Lopez.
Ouais.
Eh bien, nous allons voir. Alors d'abord, il faut retourner en 1940. Grande année, puisque c'est le début de la guerre, hein, 1939-1940. Et donc, le 10 mai 1940, les troupes allemandes commencent à pénétrer dans le territoire belge. Et alors, ça loin, attention. Un quiz.
C'est des pièges, ça.
Qui veut gagner des millions? Là, c'est la question à 1 million.
Le buzzer est prêt.
Il n'y a pas de buzzer. Bref, à ton avis,
oui.
Combien de temps faut-il attendre pour que la Belgique capitule?
Tout de suite, c'est immédiat. C'est...
Réponse A, 3 jours.
Oui.
Réponse B, 18 jours.
Mmh.
Réponse C, 3 mois. Réponse D, 9 mois.
J'hésite entre les deux premiers. Je dirais 3 jours.
C'est votre dernier mot?
C'est mon ultime bafou, Jean-Pierre.
Eh bien, c'est une mauvaise réponse.
18 jours ?
C'était 18 jours.
18 jours.
Il faudra attendre 18 jours. Bon.
Mais ça se fait tout de suite, en tout cas.
Bah oui, oui. Alors en fait, les combats atteignent leur point culminant, leur paroxysme, lors de la bataille de la Lys, du 23 au 28 mai 1940. Il s'avère que les combats virent au drame très vite, lorsque les Britanniques décident de battre en retraite vers Dunkerque. Ils se sont dit, bon bah finalement, on n'est pas beaucoup... Bon, bah écoutez, nous, on se casse. Et puis, vous, vous vous démerdez. Parce que, évidemment, les Anglais n'ont pas prévu de plan de secours pour l'armée belge.
Oui, non,
elle est encore là. Démerdez-vous, nous, on se casse. Ils referont exactement la même chose pour Dunkerque, justement, parce que c'est toujours pas prévu qu'il y ait aucun
d'autre. On rentre sur notre île, et vous?
Et vous, bah, vous restez chez vous. Hein.
Exactement.
Donc, bon, voilà, les pauvres petits Belges, eh ben, ils sont obligés de rester là. Donc, quand vous avez tout le flanc droit, parce que c'est l'armée britannique occupée tout le front... le front à droite, donc, eh ben, si vous avez une dizaine de divisions qui s'en va du jour au lendemain, eh ben, pour le compenser, bonne chance.
Ça fait un sacré vide, ouais.
Donc, évidemment, là, ça commence à être un peu tendax, disons. Mmh. Et le 25 mai, le roi et ses ministres se réunissent au château de, alors attention, de Wynendaele. Donc, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous l'appelle W-Y-N-E-N-D-A-E-L-E. Voilà. Donc, dans ce fameux château, pour décider de ce qu'il faut faire, du coup. Tandis que les ministres, eux, veulent s'exiler, notamment à Londres, pour continuer la lutte depuis l'étranger, le roi, lui, il décide de rester en Belgique, espérant que sa présence donne du moral aux troupes restantes, et il espère pouvoir s'opposer aux éventuels abus. Donc, j'ai fait des petits guillemets avec « éventuels », parce que évidemment qu'il y aura des abus de l'armée allemande en territoire belge. Et surtout que les gens, et notamment le roi, ont encore en souvenir ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale,
oui.
qui avait été aussi terrible pour les Belges.
Bah, ça a commencé en Belgique.
Bah oui, ça a commencé. Et la Belgique avait été séparée en deux, apparemment. Bah, enfin, c'est vraiment... Peut-être qu'un jour, j'en ferai une chronique, parce que c'était très intéressant ce que je voyais. Donc, c'était son père, hein, à l'époque, le roi Albert Ier, qui était au trône. Et ça avait été vraiment la catastrophe, et horrible, surtout. Donc, le roi a encore ce souvenir-là, et il se dit... Eh ben, peut-être que si je reste, les Allemands vont se montrer tranquilles. Bon.
Après, spoil,
chacun décidera. Bon, hein. Mais oui, voilà, spoil, non, ça s'est mal passé quand même. Cette divergence d'opinion contraint les protagonistes, hein, qui sont encore dans le château, à hausser le ton. Ça commence vraiment à vraiment s'engueuler sévère, quoi. Mais rien à faire, le roi, lui, il ne change pas d'avis. Et en plus, il invoque la constitution du genre « Oui, non, mais le roi doit protéger ses sujets et c'est pas en partant que je vais les protéger. » Bon, après, son argument...
C'est tout à son honneur.
Voilà, on en pense qu'on en veut, c'est pas mal, c'est pas bien, bon, bref. En tout cas, le roi, il ne veut pas changer d'avis, il veut rester là. Eh bien, les ministres, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'en vont, hein, comme ils l'ont dit. Et ben, le roi, il reste un peu penaud, tout seul. Et d'ailleurs, il en profite... de prendre connaissance de l'acte de réédition qui avait été envoyé par l'armée allemande quelques jours plus tôt aux ministres et au Parlement. Et il y a un des ministres qui était présent dans la salle qui a amené cet acte de réédition, puis il a dit, bah tiens, puisqu'il est sur la table, je vais le lire pour voir ce qui se passe. Donc, ces événements-là, tout ce que je viens de vous décrire, on le retient dans la grande histoire sous le nom de drame. Le drame de Winnendalle, enfin bon, comme on le... Le nom du château, quoi, finalement. Le drame continue le 28 mai 1940, puisque le roi ordonne la cessation des combats ce jour-là. C'est vraiment la capitulation. Il se constitue prisonnier et est enfermé en résidence surveillée au château de Laeken. Il va avoir la bonne idée, ce monsieur, de se marier pendant la guerre, donc, et pendant son internement.
Meilleur moment.
Sa femme est morte en 1935, si j'ai bien compris. La très populaire reine Astrid, très, très populaire, visiblement. Et ce monsieur, bon, bah, décide de se remarier avec Lilian Bales. Alors, en fait, cette histoire, c'est incroyable. J'aurais pu faire une chronique rien que là-dessus. C'était un micmac pas possible. Parce que la Constitution exige que le roi se marie religieusement et civilement. Mais là, parler de constitution lorsque vous avez un pays occupé, MDR.
Voilà quoi.
Et quand le gouvernement est en exil, bon, c'est pas chose aisée. Donc du coup, il va bien se marier à l'église, ça pas de souci. Mais par contre, il va pas, ou en tout cas, ça va tarder au niveau civil. Parce que bon, les administrations, elles sont complètement sans dessus. Et de toute manière, en plus, le délire, à ce que j'ai vu, c'est que cette petite dame est tombée enceinte. Dans l'intervalle. Donc le père, lui, il a tout fait, le père de la fille, hein,
oui.
a tout fait pour que bah, ça se presse,
bah,
s'il y a un enfant à naître. Enfin, c'est un micmac, c'est un bordel. Enfin bon, retenez qu'ils se sont mariés et que les enfants de cette union n'accéderaient jamais au trône. Parce que ça, c'est pareil.
Bah,
s'il y a des enfants avant ça. Et s'il y a des enfants après. Bon, écoutez. Donc ça, là-dessus, ça a été plutôt bien fait. Les enfants qui naîtront de cette Madame Bales, eh bien, ils n'auront aucun droit sur le titre, enfin sur le trône de Belgique. Donc, le débarquement, quelle date, monsieur ?
44, août 44.
Merci, c'était le 6 juin.
Hein ?
Ben oui, le débarquement de Normandie.
Oui.
Ben oui.
Tu vois ? Non mais, j'ai l'esprit fatigué.
Par contre, août, c'est le deuxième débarquement en Provence.
Oui, en bas.
Si je ne dis pas de bêtises.
Oui, oui.
Donc, tu avais presque raison.
Presque bon.
C'est moi qui ai mal formulé.
Libération, tout ça.
Donc, le débarquement de Normandie, eh ben, les gens débarquent, les troupes américaines débarquent, et donc vont libérer la France et aussi la Belgique. Alors, le roi, ben, lui, il est emmené en Allemagne, toujours en captivité.
Mm-hmm.
Hein, c'est un peu comme le gouvernement vichiste qui est lui aussi
emmené en Allemagne.
Voilà, on rapatrie un peu tout le monde. Et donc, finalement, l'armée américaine ne libérera que la famille royale le 7 mai 1945. Le 8 mai, bah, l'Allemagne capitulera. Bah, donc, voilà ce qui se passe. Et il faudra attendre un peu longtemps, quoi. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, depuis la libération de 1944, eh bien, le Parlement belge a décidé de confier au prince Charles la régence du royaume.
Ok.
Donc, c'est-à-dire que finalement, on a un peu deux souverains, finalement. Donc, bah, le roi Léopold, lui, qu'est-ce qu'il veut? Bah, il veut rentrer chez lui. Normal. Ouais. Sauf que, eh ben, c'est là que ça va commencer à sentir le roussi, si je puis dire. Les ministres catholiques, ils sont complètement favorables. Mais par contre, les collègues des partis non confessionnels, eux, ils sont catégoriques. On ne veut pas le retour du roi. Alors, pourquoi il y a cette espèce de bisbille qui commence à arriver? C'est parce qu'en fait, déjà, le roi n'a pas voulu s'exiler pour continuer la lutte. Mmh. Et en plus, on l'accuse un peu de mollesse pendant l'occupation. Oui. Et on l'accuse notamment de ne pas avoir fait grand-chose, quoi, finalement. Lui qui voulait se constituer en sauveur, finalement, bah, il a sauvé peut-être ses meubles à lui. Et pas les meubles de la Belgique, en tout cas. Enfin, c'est ce qu'on l'accuse, en tout cas. Donc, du coup, cette situation, carrément, provoque l'éclatement de la coalition du gouvernement du Premier ministre Achille Van Acker. Et cet événement suspend provisoirement cette crise. Mais le syndicat socialiste FGTB annonce la grève générale. Et le 19 juillet 1945, le Parlement adopte une loi n'autorisant pas le retour du roi sans que le Sénat et la Chambre ne se prononcent sur la fin de l'impossibilité de régner de Léopold III, qui avait été déclaré 5 ans plus tôt. Comme il s'était constitué prisonnier, eh bien, on a dit d'accord, bah, il ne peut plus régner, donc, puisqu'il est prisonnier. Et donc, en fait, cette loi-là était encore en vigueur, finalement, en 1945. C'est pour ça qu'il y a une autre loi, celle du 19 juillet, qui vient encore mettre un peu d'administratif dans cette affaire, en disant, eh bien, si le roi veut revenir, il faudra l'accord du Parlement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au vu de l'attitude assez neutre du roi durant l'occupation, les différents points de vue commencent à s'opposer. Et la Belgique commence à... C'est un peu le remake de l'affaire Dreyfus, quoi. On a les...
Léopoldistes et les anti-Léopoldistes.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. On décide tout de même d'organiser une consultation populaire. On ne parle pas de référendum, parce que dans la Constitution belge, le mot n'existe pas. Mmh. Donc, on a une consultation populaire sur le retour du roi, finalement. C'est le Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'on aura le retour du roi? Et cette consultation commence le 12 mars 1950. Alors, le résultat, je vous le donne. 58% du corps électoral se prononce pour le retour du roi, contre 43%. Ce qui fait que c'est vraiment une minuscule, une majorité minuscule. Et en plus, quand on regarde dans le détail, eh bien on voit que la partie flamande, donc le nord du pays, vote à 72% pour. Mais par contre, les Wallons, eux, ils sont seulement favorables à 42%. C'est-à-dire ils sont à 58% opposés au roi, au retour du roi. Et d'ailleurs, Bruxelles, la ville, est contre aussi, majoritairement. Donc là, on a une fracture nette entre la Wallonie et les Flandres. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, on entend encore parler de cette fracture qu'il y a les deux Belgiques. Mais finalement, ça commence un peu là déjà. Ça avait commencé déjà bien avant, mais cette question royale...
Ça prend racine ici, quoi.
Oui, exactement, exactement. Le 22 juillet 1950, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le roi revient. Il revient quand même. Donc finalement, le Parlement a visiblement décidé de l'autoriser à revenir. Mais alors, il y a des gens qui ne sont pas contents, vraiment pas du tout, parce que sachant que en juin de la même année, il y a eu des manifestations monstres en Wallonie, alors là, ça met le feu aux poudres, des vagues d'attentats dans tout le pays, et notamment en Wallonie, les chemins de fer, les centrales électriques, ça explose de partout. C'est vraiment, ça va mal, hein. La grève générale est décrétée le 26 juillet. Et la tension est vraiment à son comble le 30 juillet 1950, lorsque 3 hommes sont abattus par la gendarmerie lors d'un rassemblement dans la commune de Grasse-Berleur. Grasse-Berleur. Et un 4e homme mourra de ses blessures un peu plus tard. Donc là, ça vire au bain de sang, carrément. Oui, oui. Face aux violences, le roi, quand même, magnanime, il décide de transmettre ses pouvoirs à son fils Baudouin le 31 juillet, donc c'est-à-dire le lendemain du drame. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez dans la commune de Grasse-Breller, vous avez une plaque commémorative pour commémorer ces événements-là. Baudouin prête donc serment comme prince royal le 12 août de la même année, exerçant dès lors les pouvoirs constitutionnels du roi. Léopold III, notre fameux, il abdique officiellement le 16 juillet 1951 et Baudouin devient donc roi des Belges. Le 17 juillet, à seulement 21 ans, mine de rien. Et donc voilà comment se termine cette question royale avec une réponse assez sanglante finalement.
Oui.
Et ça n'a pas été...
L'escalade a été rapide.
L'escalade a été très rapide, hein. Tu vois, qu'en quelques mois, même pas trois mois, ça a vraiment dégénéré. Et encore, heureusement que le roi, il n'a pas dit non, je reste jusqu'au bout.
Oui, il n'a pas voulu.
Ça
n'a
pas été un jusqu'au boutiste. Parce qu'autrement, ça aurait vraiment tourné à la guerre civile.
Ouais.
Et là, ça aurait été dommageable pour nos amis belges, je le pense. Eh bien, écoutez, c'est sur cette note que se termine cette petite chronique. Et alors, pour introduire, si je puis me permettre, la chronique qui arrive, tout de suite, une petite pause musicale, je ne vous dirai pas le titre, je vous le dirai tout de suite après. Eh bien, c'est parti, c'est maintenant. Musique.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur la percée de l'histoire sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com. Et nous venons d'entendre le fameux
générique.
Voilà, générique. Je cherchais le mot, merci Salouane. Le générique de Dragon Ball Z2. animé formidable.
Oh, légendaire.
Légendaire, oui, légendaire. Exceptionnel d'ailleurs. Et nous pleurons tous la disparition de son créateur.
Akira Toriyama.
Voilà, qui est mort
le 1er mars.
La semaine dernière.
C'est ça.
Donc voilà, malheureusement. Et donc, Salouane, pourquoi on diffuse cet extrait?
Parce transition que... parfaite.
Et voilà,
puisqu'on
tout à
part
fait.
En Extrême-Orient.
Alors, oui,
je
super.
Vais vous parler de deux œuvres littéraires. Donc la première, évidemment, Dragon Ball. Je vais présenter Dragon Ball, mais bon, est-ce qu'il y a encore besoin de présenter Dragon Ball
oui,
aujourd'hui?
Oui, pour les deux du fond qui ne savaient pas.
Dragon Ball est un manga du coup d'Akira Toriyama, qui est pré-publié dans le magazine Weekly Shonen Jump, donc un magazine de publication de mangas et de nouveaux mangas avant de sortir en tome comme on les connaît chez nous en France. Donc il est pré-publié dans ce magazine du 20 novembre 1984 au 23 mai 1995, et donc édité par la suite par la compagnie Shueisha, qui en fait 42 volumes reliés du 10 septembre 1985 au 4 août 1995. En France, c'est la maison d'édition Glénat qui va publier l'édition française depuis février 1993. Et des éditions, on en a facilement une dizaine.
Ah, quand même.
En fonction des collections, des nouvelles traductions, des évolutions de nouveaux designs, de nouveaux graphismes et ce genre de choses. Donc, le pitch, bon, il est très simple. Dragon Ball raconte le parcours de Son Goku depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, où il est amené à explorer le monde à la recherche des fameuses Dragon Ball et à combattre des adversaires de plus en plus forts, dont certains deviennent des alliés. Avec environ 300 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde, il s'agit d'un des mangas les plus vendus. C'est aussi un titre majeur au moment de l'éclosion du manga en Europe, à la fin des années 80, avec notamment la série animée qui va se faire connaître aussi évidemment. Dragon Ball s'inscrit dans la culture de masse en tant que phénomène culturel. De nombreux films, jeux vidéo et autres produits dérivés en sont issus. En 2007, les Japonais classent Dragon Ball 3e meilleur manga de tous les temps à l'occasion du 10e anniversaire du Japan Media Art Festival organisé par l'agence pour les affaires culturelles derrière Slam Dunk, un manga de basket, et le légendaire Jojo's Bizarre Adventure. Le manga a été adapté et divisé en deux séries animées produites par la Toei Animation, Dragon Ball et Dragon Ball Z, qui ont été diffusées au Japon entre 86 et 96, et en France de 88 à 96, dans le Club Dorothée notamment. De plus, le studio a développé 21 longs-métrages d'animation et a deux suites, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Ça, c'est pour la première œuvre. La seconde, un peu plus ancienne et un peu moins connue, La Pérégrination vers l'Ouest.
Ouh là là.
Un roman qui est classé parmi les 4 livres extraordinaires. Donc ces 4 romans chinois de la Chine prémoderne qui ont, on va dire, la plus grande influence. Et parmi eux, notamment, on retrouve les trois royaumes, mm-hmm. qui est largement connu aujourd'hui à travers des jeux vidéo, des animés, des mangas.
Comme Total War, par exemple.
Exactement. Donc on a des romans historiques, des romans de fantasy, des romans comme justement Pérégrination vers l'Ouest ou alors Les Trois Royaumes. Donc ce roman, il est aussi connu en français sous d'autres noms. Donc on a Le Voyage en Occident, Le Singe Pèlerin, Le Roi Singe et enfin Pérégrination vers l'Ouest. Ces différents titres sont surtout dus à son héros principal, Sun Wukong, un singe immortel. Ce roman est connu de longue date au Japon sous le nom de Sayuki. L'histoire du pèlerinage, c'est d'abord l'histoire du vrai voyage de Xuanzang qu'il a accompli dans les premières décennies du 7e siècle jusqu'à la vallée de l'Indus pour se mettre à l'étude des grands monastères bouddhiques qui s'y trouvaient encore à cette époque-là.
C'est où la vallée de l'Indus ?
C'est aujourd'hui l'Inde, on va dire. En fait, le voyage, si on veut caricaturer, c'est de la Chine à l'Inde.
Voilà. Sacré
voyage. Et donc, au fil du temps, et au fil des récits, de témoignages, en élaboration de plus en plus légendaire, le voyage de Xuanzang est passé d'un simple voyage, un pèlerinage dans le monde réel, à un voyage vers le ciel du Bouddha. C'est une citation de Vincent Durand d'Astel, un professeur des universités qui enseigne l'histoire de la littérature à Nilalco et qui est co-rédacteur en chef de la revue Études chinoises. Il nous dit aussi que le texte principal de cette œuvre, de ce roman, date du XIIe siècle et a connu de nombreuses versions. En fait, il est adapté d'une tradition orale qui est présente dès le VIIe siècle. Au XIIe siècle, on l'écrit, on couche sur papier cette histoire. Et à la fin du XVIe siècle, il y a un basculement. Et le roi singe devient central dans le récit. Ce singe, né d'un œuf de pierre, veut devenir roi, défier l'empereur. Et donc, à partir de là, toute l'histoire commence. Comment ce roman est-il arrivé jusqu'à nous aujourd'hui ? Donc, le roman est publié une première fois, donc à la fin du XVIe siècle. Et comme de coutume, le nom de l'auteur n'était pas mentionné. Et les différents éditeurs pouvaient modifier le contenu ou la longueur de l'ouvrage, ce qui explique notamment les innombrables versions du texte. L'identité de son auteur fut donc longtemps ignorée. Au Japon, il est publié une première fois au début du XVIIIe siècle, ce qui en fait la première traduction en langue étrangère, d'après une version commentée qui date à peu près de la fin de la dynastie des Ming. Donc, le voyage, il fut donc publié dans un premier temps sous le nom du commentateur, donc, qui a fait cette première version. Pérégrination vers l'Ouest gagne sa popularité, un siècle après son arrivée sur l'archipel japonais grâce à une série d'estampes remarquables parce qu'elle incorpore dans sa fabrication de nouveaux styles pour représenter les mouvements et certains personnages. On a notamment le fait que certains personnages sortent du cadre dans lequel ils sont dessinés. C'est ces codes-là qu'on va pouvoir retrouver beaucoup plus tard dans les mangas en général. Mais surtout, chez un auteur qui va s'en servir comme source d'inspiration principale, c'est bien sûr Akira Toriyama, qui va l'utiliser pour son manga Dragon Ball. Donc, en plus d'utiliser le roi singe, donc qui se nomme en chinois Sun Wukong, qu'on traduit en japonais, par Son Goku, le nom reste le même, les attributs simiesques restent les mêmes, Son Goku, on va le retrouver avec du coup sa queue de singe. Il se balade, comme dans le roman, sur un nuage volant, un nuage magique. Il se bat avec un bâton, magique lui aussi. Il est fort au combat. On va retrouver d'autres personnages issus de ce premier roman. Par exemple, le petit cochon Oolong, qui a la capacité de se transformer et qui est d'abord un ennemi et finit par devenir un allié de Sangoku. Donc, voilà pour Akira Toriyama, mais le roman Les Pérégrinations vers l'Ouest a inspiré beaucoup plus que le manga Dragon Ball. On va le retrouver notamment pour les plus connus, Luffy par exemple dans One Piece. Mm-hmm. Son nom est un exemple, Monkey D. Luffy, tous ces mimiques qui rappellent le singe, on va dire, sont utilisés là-dedans. On va le retrouver dans l'œuvre Naruto aussi. Donc c'est vraiment une œuvre majeure dans la culture aujourd'hui populaire en Chine, au Japon. Voilà.
Je ne savais pas, et merci beaucoup d'abord pour ta chronique, et je ne savais pas que les auteurs devaient rester anonymes.
Si, ça c'est. J'ai été surpris aussi, c'est que dans le. Pour les quatre, en fait, les quatre livres extraordinaires de cette période-là de la Chine, en fait, c'est vraiment l'éditeur qui a les pleins pouvoirs sur le texte. Oui. En fait, l'éditeur se contente d'acheter un texte à l'auteur. Et l'auteur, après, on n'en entend plus parler. C'est l'éditeur qui va gérer à la fois la diffusion du texte, s'il veut lui apporter des modifications en fonction de sa popularité. Si il y a un passage qui plaît plus qu'un autre, on va adapter une suite sur ce passage-là, et le reste, on va oublier.
D'accord.
Mais c'est vraiment l'éditeur qui a la main mise sur l'écriture, on va dire, dans la Chine pré-moderne.
Mmh. Et c'est encore le cas aujourd'hui ?
Non, à mon avis, ça a changé aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup plus d'auteurs qui justement se font connaître, ou même s'ils ne signent pas des textes, ils laissent une petite marque pour qu'on puisse les retrouver.
Oui, j'imagine que bon, ils font en sorte qu'on puisse les reconnaître un petit peu.
Évidemment.
Il y a une empreinte,
c'est
une patte,
ça. Propriété finalement. Intellectuelle et ce genre de choses.
Voilà, exactement. Vous avez pu peut-être entendre légèrement en bed une petite musique de fond, Et si vous voulez la retrouver, ça s'appelle Megamix Happy Dragon Ball Music to Motivate, pour être bien motivé comme il faut, sur la chaîne de Cornelius. Et on le remercie, même si, bon, visiblement, on ne se croisera jamais. Bien. Eh bien, écoutez, il est l'heure pour une dernière petite pause musicale. Et écoutez, j'avais envie d'un peu de jazz, vous comprenez ?
Faisons-nous plaisir.
Mais pas n'importe lequel. Nous avons une cover jazz de Super Mario Sunshine de la place Delfino. Voilà.
On est parti au soleil.
Eh bien, écoutez, au soleil, oui, comme le soleil revient. Bon, alors pas aujourd'hui,
mais il revient.
Ça revient petit à petit. Et je suis sûr que si on le motive un peu avec cette chanson, il va revenir plus vite et plus fort. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Radio Alpa.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com. Et c'est déjà la fin de la percée de l'histoire. Nous avons pu entendre un remix tout à fait étonnant, enfin étonnant et super. Vous pouvez le retrouver donc sur la chaîne Insane in the Rain Music. C'est un monsieur donc, qui fait des covers, notamment de chansons de jeux vidéo connus. Donc, je vous invite à aller voir son travail, parce que vraiment, c'est un gars, il doit avoir 25 ans, hein, à vue d'œil. Et vraiment, il fait de bons trucs. Donc là, c'était une cover jazz de Plaza Delfino sur Super Mario Sunshine. C'est donc la fin de cette émission. Salouane, merci beaucoup.
Merci à toi.
Nous avons passé un très bon moment.
Oui, rapide, mais...
Toujours rapide. Hein.
Ça passe toujours trop vite quand on s'amuse.
Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, parce que là, ça bouge depuis trois jours.
C'est
nous
vrai que...
très contents. Merci. Hein. Merci pour vos retours sur ce Reels.
Vous pouvez entendre la star parler au micro ce soir.
Oui, tu parles.
Il a déchaîné les réseaux.
En tout cas, ça a bien plu. Nous sommes très contents. Merci beaucoup. On s'est beaucoup investi.
Oui.
On s'est tous investis dans cette
beaucoup
affaire.
Beaucoup amusé et beaucoup investi.
Voilà. Donc, merci beaucoup. On se retrouve sur les réseaux sociaux, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Et j'en profite aussi pour vous dire que la semaine prochaine, vraisemblablement, donc là, c'est pour dire vraiment... il n'y aura pas émission.
Et non,
il n'y aura pas émission. Pourquoi ? Parce que je passe le CAPES.
Eh oui, priorité au direct.
Priorité au direct. Donc là, je serai à Nantes. Je ne pourrai pas faire la technique. Et donc là, bon, la percée de l'histoire ne peut pas être toute seule. Enfin, Salouane ne peut pas être tout seul. Il ne peut pas être au four et au moulin, le pauvre. Donc voilà, tant pis. Nous nous retrouverons le mardi d'après. Donc, on sera le 26, il me semble. Et on pourra se retrouver tout à fait tranquillement. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, c'est la fin. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée et surtout, au revoir.
À bientôt.
Dégalation !
Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir! Il faut le groupir! Qu'est-ce qu'il dit? Groupir!
Tout à l'heure, là.
Et toc, remonte ton scribard, Lothar!
Monsieur!
L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.